Alors, Xavier Pennec est ingénieur de l'École Polytechnique, dont il a reçu le diplôme de docteur en informatique en 1996. Il a ensuite travaillé dans le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT aux USA avant de rejoindre INRIA comme chercheur en 1998, puis comme directeur de recherche en 2007 dans les équipes Epidor puis Asclepios. Son principal domaine de recherche concerne les statistiques géométriques, en particulier pour l'analyse d'images médicales et pour l'anatomie computationnelle. Xavier Pennec est auteur de nombreuses publications internationales influentes et il est le fondateur de la série d'ateliers scientifiques sur les fondations mathématiques de l'anatomie computationnelle.
Merci beaucoup Nicolas pour cette introduction. Je suis très heureux de pouvoir présenter aujourd'hui des travaux sur les statistiques de forme et plus particulièrement sur l'importance de la géométrie dans l'anatomie algorithmique. Et donc pour commencer cet exposé, j'ai choisi d'illustrer trois mots-clés qui seront les fils rouges de cet exposé. Le premier, c'est bien sûr l'anatomie. Et si on prend la définition du Larousse, on voit que ça parle de forme, de structure et de relation entre les organes, donc de géométrie. Deuxième terme, c'est bien évidemment la géométrie. Donc si vous vous rappelez le séminaire d'Hervé Delingette la semaine dernière, il définissait les formes comme les classes d'équivalence de figures de l'espace par des groupes de transformation, par exemple la position et l'orientation dans l'espace. Donc en fait, ici, on est en train de parler d'invariants d'un groupe de transformation au sens de Félix Klein du programme d'Erlang. Enfin, le troisième terme, c'est les statistiques, puisqu'en fait, on veut réaliser statistiques sur des populations de sujets, des populations d'organes. Et j'ai choisi cette définition, non pas du Larousse, mais du dictionnaire de l'internaute, parce qu'elle est un peu plus récente, et elle met en valeur l'aspect numérique et en fait l'aspect fondamental que joue l'informatique et l'algorithmique derrière les calculs qu'on va faire ici. Donc si je prends le point de vue général, les primitives géométriques qu'on va considérer pour analyser les formes anatomiques, ça peut être des courbes, ça peut être des surfaces, ça peut être des faisceaux de courbes, des tenseurs. Donc les exemples que j'utiliserai dans cet exposé, ce sont des tenseurs de diffusion et essentiellement des transformations. En fait, ce sont des points qui appartiennent à des espaces non linéaires, donc comme ça a été très bien montré dans l'exposé de Nicolas. Et on veut faire des statistiques sur ce sujet. Donc il y a deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'est de définir des statistiques, et le deuxième, c'est d'implémenter des algorithmes pour pouvoir les calculer. Donc mon exposé sera en trois parties. Je vais essayer d'abord de vous présenter les fondements mathématiques du calcul statistique sur les variétés riemanniennes, puis comment on peut utiliser ça pour généraliser en fait, le traitement d'images ou des algorithmes de traitement d'images pour des images qui sont à valeur dans les variétés. Et puis je reviendrai sur la structure qu'on utilise pour essayer d'enlever la métrique et de faire de la géométrie sans avoir de distance. Donc premier élément mathématique dont on a besoin pour pouvoir travailler, ce sont les variétés différentielles. Alors qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est très simple, c'est en fait localement un espace euclidien, mais quand on regarde à plus grande échelle, ça peut être courbé. Donc les exemples simples, c'est la sphère, c'est la selle de cheval, un exemple d'espace hyperbolique, les surfaces 2D dans l'espace 3D, et les exemples moins simples qui nous intéressent un peu plus, mais qui sont beaucoup plus durs à représenter sur un transparent, c'est les transformations, les espaces projectifs, des transformations rigides, des difféomorphismes. Donc quand on a mathématiquement une variété, il y a deux manières de les représenter. Il y a une première manière qui est une manière extrinsèque. Donc ici, si on regarde la surface de la Terre, on voit que c'est globalement une sphère de dimension 2, mais on la voit facilement comme plongée dans trois dimensions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la manière extrinsèque. Et la manière intrinsèque, c'est de représenter des cartes locales. Donc on a deux dimensions, donc on va avoir des cartes de dimension 2 dans lesquelles on va pouvoir avoir des coordonnées. Et bien sûr, comme on a de la distorsion quand on cherche à faire une carte, il va falloir plusieurs cartes pour pouvoir représenter la variété et des transitions entre ces cartes. Alors tout ça, quand on met le formalisme mathématique derrière, ça doit être différenciable, c'est de classe K, enfin nous on va considérer C infini, donc lisse. Et donc ce qu'on appelle atlas, ici, en termes mathématiques et non pas en termes de traitement d'image, c'est un ensemble consistant de cartes. Donc le problème clé qui se pose, c'est comment pouvoir mesurer, et on va prendre trois exemples dans cet exposé, des volumes, donc en l'occurrence sur une surface comme ça, ça serait sur la Terre, ça serait plutôt des surfaces, des longueurs ou des lignes droites. Et donc, si on prend une autre variété, hein, juste la surface ici d'une gaussienne, on peut voir que des petites surfaces ici qui sont toutes de surface équivalente quand on regarde la variété plongée dans l'espace ambiant, quand on la regarde dans une carte qui est simplement la projection verticale ici, eh bien, la superficie n'est plus du tout la même. De la même manière, si on prend la même courbe dans l'espace ambiant ou une fois projetée dans une carte et qu'on calcule les longueurs, on a deux longueurs différentes. Alors comment faire ? Il faut revenir aux outils de base. Et l'outil de base dans l'espace ambiant, dans un espace euclidien, c'est le produit scalaire. Et quand on a un produit scalaire, on peut prendre la norme d'un vecteur, on peut calculer l'angle entre deux vecteurs et on peut calculer la longueur d'une courbe en intégrant la norme du vecteur tangent à la courbe le long de la courbe. Donc ça, on peut le faire dans la variété quand elle est plongée dans l'espace ambiant. Mais si on prend une carte de cette variété, on s'aperçoit que quand on prend un repère ici qui est orthogonal, une fois qu'on l'a projeté, il n'est plus orthogonal. Enfin, il peut l'être en un point, mais il ne peut pas l'être partout. Et donc l'idée de Riemann, c'est de considérer que pour que cette notion de distance soit intrinsèque, il faut qu'on attache, en chaque point de la variété, il faut qu'on attache un produit scalaire. Et donc ici, en l'occurrence, une matrice G qui va nous permettre de faire un produit scalaire qui dépend du point. Et maintenant, cette matrice étant attachée en chaque point, quand on change de carte, on va pouvoir calculer comment elle doit se propager, mais c'est une donnée de la variété. Et donc, comme précédemment, on peut maintenant faire la norme d'un vecteur. Simplement, celle-ci va dépendre du point de la variété où on est en train de regarder. On peut prendre l'angle entre deux vecteurs et on peut prendre la longueur d'une courbe, mais cette fois-ci en intégrant la norme du vecteur tangent, mais la norme dépend du point courant de la courbe. Donc maintenant qu'on a la longueur, on peut se poser la question principale qui nous intéresse en géométrie, c'est celle des géodésiques, c'est-à-dire ici, quel est le plus court chemin entre deux points. Donc pour regarder ça, on prend toutes les courbes qui relient les deux points, et puis on va calculer quelle est la courbe la plus courte. Donc pour ça, il y a le calcul des variations, et qui nous permet d'avoir une équation dite de Lerlagrange. Et cette équation, on s'aperçoit que c'est une équation différentielle d'ordre 2, donc en gros, elle spécifie l'accélération de la courbe, et nous laisse deux paramètres libres, la position initiale et le vecteur vitesse initiale. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que quand on représente, quand on prend toutes les géodésiques qui partent d'un point, on peut les caractériser avec leur vecteur tangent. Et c'est exactement l'origine de l'application exponentielle que Nicolas Yash a présentée dans son cours. C'est-à-dire que l'application exponentielle, c'est quel est le point qu'on atteint sur la variété si on suit la géodésique qui part de ce point avec ce vecteur tangent. Et cette application, elle est localement inversible, difféomorphe, donc on peut calculer l'inverse, qu'on appelle le log, et qu'on peut voir comme le développement de la variété dans l'espace tangent le long des géodésiques. Donc il y a de manière algorithmique, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que ça, d'un point de vue général, c'est le difféomorphisme entre la variété et l'espace tangent, il est local. Mais en fait, en géométrie riemannienne, on peut l'étendre à quelque chose qui est quasiment global, qui couvre presque toute la variété quand on a une métrique qui est dite géodésiquement complète. Et ça, algorithmiquement, c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut toujours continuer la géodésique. Ça veut dire que l'exponentielle ne sortira jamais de la variété. Et ça, pour un algorithme, c'est important parce que si on en sort, on n'est plus dans l'espace dans lequel on voulait regarder. Donc, les bases algorithmiques qu'on va utiliser pour pouvoir faire des calculs sur les variétés, des calculs statistiques, c'est les applications exponentielles et logarithmes. Et j'ai réécrit ici un certain nombre d'opérations qu'on peut déjà réécrire facilement. Donc, par exemple, la soustraction dans un espace euclidien entre deux points, c'est chercher le vecteur qui permet d'aller d'un point à un autre. Donc, c'est prendre le log. Donc, moi, je le noterai comme ça, xy, vecteur xy est un vecteur qui permet d'aller de x en y. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le vecteur xy, ce n'est pas l'opposé du vecteur yx, puisque ce sont des vecteurs qui appartiennent à deux espaces tangentes différents. Donc, c'est des vecteurs qui ont des pieds. Donc, on peut déjà réécrire un certain nombre d'opérations comme ça, donc l'addition, la distance, on peut faire des descentes de gradient. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire des statistiques. Donc, pour faire des statistiques, on va commencer par prendre une variable aléatoire à valeur dans notre variété. Donc, on peut considérer que c'est un point aléatoire, par exemple, sur la Terre. Et cette variable aléatoire, en général, on la représente par une densité de probabilité. Donc ça s'écrit avec cette formule-ci, qui est une intégrale. Et en général, dans cette intégrale, on utilise la mesure de Lebesgue, qui est juste la mesure classique d'un élément de volume dans la carte. Le problème qu'on a vu, c'est que la mesure de volume, ou de surface ici, dépend de la métrique riemannienne. Donc en fait, il faut déjà qu'on change et qu'on utilise la mesure riemannienne, qui est reliée à la mesure de Lebesgue, ici, dy, par quelque chose qui dépend de la métrique. Bon, mais c'est faisable, ça ne pose pas tellement de problèmes. Deuxième opération qu'on peut prendre, c'est que si on a une observable au sens physique de notre variable aléatoire, c'est-à-dire une fonction scalaire ou vectorielle, ben on peut en prendre l'espérance, donc on peut calculer quelle est l'espérance. Donc, par exemple, on peut prendre la distance au carré par rapport à un point fixe et calculer l'espérance de cette distance au carré. C'est ce qu'on appelle la variance. Par contre, on ne peut pas prendre l'espérance de la variable x, l'espérance de la position dans la variété. Parce que dans ce cas-là, on aurait une intégrale qui serait à valeur dans un espace non linéaire. Or, l'intégrale, c'est un opérateur linéaire, ce n'est pas possible. Donc, pour pouvoir définir une moyenne, eh bien, il faut qu'on change la définition. Et ce que Fréchet a fait, c'est de prendre ce qui était avant une propriété, la moyenne minimise la variance, de prendre ça pour une définition. Et c'est ce qu'on appelle l'espérance de Fréchet. On va appeler moyenne tous les points qui minimisent la variance. Et donc on a vu que la caractérisation variationnelle de cette chose-là, qui est le gradient de la variance égale 0, nous permet d'avoir une caractérisation des points moyens comme des barycentres exponentiels. Donc ce qui est intéressant, c'est que ici, ce qu'on perd par rapport à un espace euclidien, c'est qu'on a un processus de minimisation, et maintenant les minimums, ben, on n'en a plus forcément un seul. Donc on peut avoir un ensemble de points moyens. Donc ça, c'est un peu gênant du point de vue informatique, parce qu'on a l'habitude d'en avoir un seul. Il y a des théorèmes qui nous permettent de caractériser quand est-ce qu'il y en a un seul. Mais ces théorèmes, ils ne couvrent pas toute la variété. Par contre, il y a des résultats très récents qui sont que si on prend des moyennes empiriques, c'est-à-dire si on a juste des échantillons, des points mesurés sur notre variété, un nombre fini de points, alors presque sûrement la moyenne est unique. Donc ça, c'est un terme probabiliste, presque sûrement, ça veut juste dire que ça arrive avec une... la moyenne ne sera pas unique avec une probabilité nulle. Donc ça veut dire qu'il suffit de faire une petite perturbation et on peut s'en sortir. Donc ça, c'est des résultats très récents qui permettent de montrer, d'avancer dans la conception qu'on se fait de ces objets. Donc grâce à la caractérisation exponentielle, en termes de barycentre exponentiel, on voit que quand on est arrivé au point moyen, quand on développe dans l'espace tangent, ben on a une distribution qui est maintenant complètement dans l'espace tangent, dont la moyenne est 0, et en plus qui est dans un domaine qui est étoilé. Donc on peut faire tout un tas de calculs. En particulier, on peut définir la matrice de covariance ou les moments d'ordre supérieur dans l'espace tangent. Et puis cette matrice de covariance, on peut chercher à la diagonaliser pour avoir les vecteurs qui correspondent aux valeurs propres principales, c'est-à-dire quelles sont les directions qui encodent un maximum de variabilité. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle l'analyse en composante principale tangente. Donc il y a eu plein d'autres choses qui ont été proposées pour les variétés, mais la plus utilisée reste l'analyse en composante tangente. Donc un exemple d'application de ça, c'est sur les colonnes vertébrales qu'on a vues tout à l'heure. Donc en gros, ici, on a eu 300 sujets sur lesquels qui ont eu des radiographies frontales et latérales. Il y a des points qui ont été spécifiquement marqués sur chacune des vertèbres, en frontal, en latéral, pour pouvoir reconstruire leur position en 3D. Et donc, à partir de ça, on a pu caractériser la position et l'orientation de chacune des vertèbres en trois dimensions. Alors, on peut faire effectivement les statistiques sur les points, puisque c'est la base de nos données. Le problème, c'est que si on cherche à analyser la matrice de covariance, il faut beaucoup de modes pour être capable de bien décrire ce qui se passe. Donc ce qu'on avait proposé, c'est de faire des statistiques en essayant d'avoir un modèle a priori, et le modèle de la colonne vertébrale, c'est quand même un modèle articulé. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'articulation d'une vertèbre par rapport à l'autre, et si on encode quelle est la rotation et la translation d'une vertèbre par rapport à l'autre, alors on a un vecteur de 17 transformations rigides, ici, qui nous encode la forme de la colonne. Et donc on voit que la moyenne, ici, est une colonne virtuelle qui a une légère scoliose. Ce sont tous des patients scoliotiques, donc une légère scoliose à droite, peut-être parce qu'il y a plus de droitiers, de scoliotiques droitiers que gauchers. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder quelle est la variabilité autour de cette moyenne. Et quand on fait cette analyse de la composante, de la analyse en composante principale tangente, on s'aperçoit qu'avec 5 modes, on explique déjà plus de la moitié de la variabilité. Et en plus, on s'aperçoit que les 4 premiers modes, eh bien, ils ont une signification clinique. Le premier mode, ici, qu'on voit en frontal, c'est visiblement la croissance, et avec la croissance, une augmentation de la scoliose. Ça, c'est connu, c'est en gros 1 degré par an, lors de l'adolescence. Les modes 2 et 3, ici, ce sont des modes de vibration d'une corde, avec un ventre ou deux ventres. C'est essentiellement la mesure de la scoliose dans le plan frontal. Le quatrième mode, ici, c'est la lordose, c'est la cambrure au niveau des lombaires qu'on détecte ici. Donc, on voit apparaître directement, grâce à l'utilisation de données géométriques à la base qui ont un sens physique en termes de modèles articulés, on voit apparaître directement des significations sur l'analyse qu'on peut faire des données. Donc maintenant, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter très rapidement comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour généraliser le traitement d'images. Et par traitement d'image à valeur dans les variétés, je pense aux images de tenseurs où en chaque voxel, ici, on a une matrice symétrique définie positive, qu'on appelle improprement en traitement d'image un tenseur. Donc pourquoi c'est un problème de traiter ces matrices? On pourrait se dire que c'est des matrices symétriques, on peut faire des choses comme on travaille avec les matrices. En fait, elles sont définies positives. Ça veut dire qu'il y a une contrainte, il faut que les valeurs propres soient positives. Ça veut dire qu'en fait, on a un sous-espace des matrices symétriques. Ce sous-espace est un cône, il a des bords. Et si on prend la métrique de Frobenius classique, la métrique euclidienne, en fait, les géodésiques, elles vont sortir. En fait, on a une métrique qui n'est pas complète. Et ça, algorithmiquement, ça veut dire que dès qu'on fait des opérations non convexes, une descente de gradient, par exemple, ce qu'on fait tout le temps pour, à peu près, pour faire des estimations, eh ben, on va avoir des valeurs propres négatives. Et c'est ce qu'on voit ici avec des tenseurs qui ne sont pas définis. Donc, comment choisir une métrique complète et comment utiliser cette métrique pour faire des algorithmes consistants? Ben, les métriques complètes, il y en a eu deux qui ont été proposées, affine invariante et log euclidienne. Le principe général, c'est d'essayer d'avoir une barrière logarithmique, c'est-à-dire que quand une valeur propre s'approche de zéro, ça va coûter de plus en plus cher d'aller dans cette direction-là. Et donc ça peut se faire en pondérant par l'inverse de la matrice courante. Et quand on prend cette métrique là-haut, je vous passe quelques pages de calcul, mais en gros, ce qu'on arrive, c'est on peut calculer explicitement la carte exponentielle et logarithmique. Donc ça ne sert à rien de le retenir. Le seul truc important ici, c'est qu'informatiquement, on est capable d'implémenter les opérations de base dont on a besoin, et on est capable de calculer des géodésiques partout. Donc maintenant, pour faire du traitement d'image, le premier outil dont on a besoin, c'est l'interpolation. Donc l'interpolation entre deux tenseurs, on l'a vu, on suit la géodésique. Mais quand on fait du traitement d'image, on a les valeurs qui sont en des points réguliers au coin du pixel en 2D ou du voxel en 3D. Et on veut être capable d'interpoler en n'importe quel point. Donc en général, la manière de faire, c'est de définir des poids et de dire on va faire une moyenne pondérée des différentes valeurs avec des poids qui varient suivant la distance à chacun des points. Mais ça, c'est une formule qui n'existe pas dans les variétés, puisqu'on est en train de faire une somme. Donc il faut reformuler en termes de minimisation, donc de moyenne de fréchet pondérée, minimisation de la distance au carré pondérée. Et si on mène ce processus, minimisation en chaque point, on voit qu'ici, on a un calcul en chaque point du voxel, ici, où on peut calculer la valeur interpolée. Donc cette idée de reformuler la plupart des sommes comme des moyennes pondérées, on peut l'utiliser aussi pour du filtrage. La plupart des filtrages sont faits avec des convolutions, et la convolution, c'est ni plus ni moins que la moyenne des voisins avec un noyau, qui souvent est le noyau gaussien. Donc c'est ce que j'ai illustré ici. Et ça peut se reformuler comme un problème de minimisation en chaque point, où on va rechercher la moyenne de fréchet qui résout ce problème. Et donc ça nous permet d'avoir ici une régularisation. Donc là on a les ventricules et ici le corps calleux, et on voit que ça permet d'éliminer un certain nombre de mesures aberrantes par rapport à l'euclidien. Le dernier algorithme que je vais illustrer, c'est la régularisation anisotrope. Donc le problème, c'est que quand on régularise ici, là, on a sur les données originales, on avait une frontière bien définie entre les ventricules et le corps calleux, et on voudrait bien la conserver. Donc en général, ce qu'on utilise pour faire du filtrage anisotrope, c'est une fonction robuste de la norme du gradient spatial. C'est-à-dire qu'on cherche à régulariser là où le gradient est très faible, et au contraire, on ne veut pas régulariser si on a un gradient très fort, ce qui veut dire qu'on a à ce moment-là un contour. Donc ici, on peut poser le problème exactement de la même manière dans une variété. La seule différence, c'est que la norme ici, elle doit dépendre du point où on est en train de regarder. Et de la même manière qu'on écrit les équations dans le cas scalaire, on va trouver que minimiser ce critère revient à avoir un phénomène d'évolution le long du Laplacien. La différence, c'est qu'ici, au lieu d'avoir le Laplacien classique, on a l'opérateur de Laplace-Beltrami qui prend en compte la courbure. Donc, on pourrait penser qu'il faut implémenter des choses qui dépendent de la courbure. Eh bien non, la carte exponentielle, elle a la propriété de garantir, enfin, d'avoir la même distance le long des géodésiques, donc dans des lignes droites qui partent de l'origine. Et ça veut dire que l'opérateur Laplace-Beltrami, on peut l'écrire directement grâce à la carte exponentielle. Donc, encore une fois, on a l'outil algorithmique qui nous permet de calculer directement. Donc, dans un système d'images réelles, on peut utiliser ces outils-là pour essayer d'estimer des images de tenseurs dans des conditions cliniques où on a un rapport signal à bruit qui est très très faible. Et si on fait une estimation standard, ici on voit qu'il y a plein d'endroits où le tenseur n'est pas défini, il a des valeurs propres négatives. Si on utilise déjà un modèle de l'imagerie avec un modèle de bruit qui correspond à ce qui est observé, on a déjà une meilleure estimation. Et ça marche parce qu'on a une descente de gradient dans l'espace des tenseurs qui est bien posée. Et si on rajoute un a priori spatial, on voit apparaître ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit apparaître dans l'image les disques intervertébraux dans l'image d'anisotropie. Donc on commence à regagner vraiment beaucoup de choses dans l'interprétation de l'image. Donc le dernier point de mon exposé concerne les groupes de transformation. Donc on a vu qu'on pouvait encoder la variabilité anatomique. Si on prend un atlas, on peut regarder quelle est la déformation ou le difféomorphisme, la transformation qui permet de superposer l'atlas vers chacune des images. Donc on est en train d'abstraire un problème de comparaison d'images en un problème de statistique sur des transformations. Donc ça, on l'a vu aussi pour la colonne vertébrale, c'est des transformations, un ensemble de transformations rigides. Donc en fait, là, on dit qu'on est sur un groupe de Lie, c'est-à-dire qu'on a à la fois une structure de variété différentielle et de groupe. On a une composition, une opération de composition. On peut, quand on transforme un objet, on peut le transformer plusieurs fois en composant les transformations. On peut aussi inverser la transformation. Donc sur ces variétés spéciales, on a des métriques riemanniennes qui sont naturelles, qui consistent à dire si on choisit une métrique sur l'algèbre de Lie, sur l'espace tangent à l'identité, alors on peut la propager en translatant, on peut la propager à gauche ou à droite grâce à la composition en n'importe quel point du groupe. Et donc ça nous fournit des outils pour travailler sur les groupes de Lie qui sont par exemple utilisés dans le cadre LDDMM, donc Large Diffeomorphic Metric Mapping, où en fait on cherche à mettre une métrique riemannienne sur l'espace des difféomorphismes. Alors pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière, un difféomorphisme c'est une transformation de l'espace. Une courbe dans l'espace des difféomorphismes, c'est une transformation de l'espace qui dépend du temps. Et un vecteur tangent à cette courbe, c'est la dérivée de cette déformation qui dépend du temps, c'est donc un champ de vitesse. Donc en fait, un vecteur tangent à une déformation, ici, c'est un champ de vecteur. Et donc la donnée d'une métrique riemannienne, ça va être une métrique riemannienne sur les champs de vecteurs, mais qui dépend de la transformation où on est. Et si on prend une métrique invariante à droite, en fait, ça revient à prendre la vitesse, mais du point matériel original, et donc on a une description lagrangienne du mouvement, et si on met une métrique suffisamment forte, on peut montrer qu'on obtient un difféomorphisme. Donc c'est la base mathématique de ce qui est derrière LDDMM, mais c'est aussi la base mathématique de la mécanique géométrique, avec les travaux de Arnold, Souriau en France, et plus récemment Marsden, Rassu ou Daryl Holm en Angleterre. Donc pourquoi ce cadre ne convient pas parfaitement d'un point de vue ou n'est pas parfaitement compatible avec les statistiques? Eh bien, l'observation, c'est qu'en général, sur un groupe de Lie, il n'existe pas de métrique qui soit à la fois invariante à gauche et à droite. Donc si je choisis une métrique, ça veut dire que si je calcule la moyenne de Fréchet avec la métrique à droite, je vais avoir un résultat. Si je calcule la moyenne de Fréchet avec une métrique à gauche, je vais avoir un autre résultat. Si j'ai un ensemble de transformations, que je calcule leur moyenne, et que j'en prends l'inverse, ça ne sera pas la moyenne des inverses. Donc, en fait, la notion de moyenne qu'on obtient n'est pas complètement... ne respecte pas complètement les opérations de groupe. Donc la question qu'on se pose, c'est peut-on définir une moyenne qui reste bien variante, mais peut-être sans métrique, puisque de toute façon, il n'existe pas de métrique bien variante. La réponse, c'est oui, mais il faut revenir à la définition géodésique. Et si vous vous souvenez, j'ai dit que quand on minimisait les plus courts chemins, l'équation de Euler-Lagrange, c'est une équation du deuxième ordre qui spécifie en quelque sorte l'accélération. Donc l'idée, c'est de définir les géodésiques comme des lignes droites, des lignes d'accélération nulle. Mais pour définir l'accélération, j'ai besoin de comparer des vecteurs vitesse le long de la courbe qui appartiennent à des espaces tangents qui sont légèrement différents. Et donc j'ai besoin d'un opérateur qui me permet de projeter un espace tangent sur un espace tangent voisin. Donc ça, c'est exactement ce qu'on appelle une connexion ou un transport parallèle infinitésimal. Si on a cet objet-là, alors on peut calculer l'accélération, donc les courbes d'accélération nulle. Et comme on a exactement la même équation différentielle du deuxième ordre, on a toujours le même cadre algorithmique local de carte exponentielle et logarithmique pour calculer avec ces variétés-là. Donc dans le cas de groupe de Lie, il existe parmi toutes les connexions qui existent, il en existe une qui est particulièrement intéressante parce qu'elle est symétrique, elle est bi-invariante, et les géodésiques sont l'exponentielle de groupe. Donc dans le cas des matrices, c'est tout simplement l'exponentielle matricielle multipliée à droite ou à gauche par une autre matrice. Ça, ce sont des géodésiques pour la connexion de Cartan. Dans le cas des difféomorphismes, les géodésiques, ce sont les translations à droite ou à gauche des champs de vecteurs stationnaires. Donc en fait, on a ici la justification de l'utilisation des champs de vecteurs stationnaires dans le cadre des difféomorphismes. Et la chose intéressante, c'est que si on a une métrique bien variante sur un groupe, alors cette connexion est compatible, et c'est la connexion de Lévi-Civitas, donc c'est exactement la même chose. On est en train de faire la même chose. Mais par contre, cette connexion continue à exister, même quand on n'a pas de métrique bien variante. Donc pour revenir au cadre statistique, dans le cas des groupes, dans le cas général des espaces à connexion affine, on peut définir les barycentres exponentiels. On n'a plus la moyenne de Fréchet, puisqu'on n'a plus de distance, mais on peut prendre encore une fois ce qui était une propriété comme nouvelle définition. Donc on va prendre les barycentres exponentiels, et sous des réserves de convexité locale, on peut montrer qu'il y a existence et unicité locale. Dans le cas des groupes de Lie, ça donne ce type d'algorithme, donc c'est exactement ce que Nicolas a décrit dans son cours, et le résultat de cet algorithme, c'est une moyenne qui est stable par composition à gauche, par composition à droite et par inversion. Alors, d'un point de vue théorique, l'unicité, elle n'est que locale. Par contre, quand on regarde des groupes particuliers, donc le groupe de Heisenberg, des groupes de transformation rigide ou linéaire, on a pu montrer qu'en fait, on avait une unicité globale, presque sûre. Donc, ça veut dire qu'on a exactement un cadre qui est très proche de celui du riemannien, mais on n'a pas encore tous les résultats mathématiques. Donc, c'est une petite synthèse des deux cadres. Ce qui est similaire, c'est qu'on a une même structure entre le cadre de connexion de Cartan et riemannien, on a une même structure de variété avec courbure. On a les cartes exponentielles et logarithmiques qui réalisent des systèmes de coordonnées normaux, en tout cas en dimension finie. Par contre, dans le cadre affine, on n'a pas de métrique. Alors, ça peut être vu comme un inconvénient, mais ça peut être vu aussi comme un avantage, puisque finalement, notre cadre ne dépend pas du choix d'une métrique. Parce que finalement, les résultats qu'on a pour une certaine moyenne, comment est-ce qu'ils changent si on a changé la métrique? Et quelle est la bonne métrique à choisir sur l'espace? Donc là, on a encore un certain nombre de questions qui sont ouvertes dans le cadre riemannien. Il y a d'autres limitations en dimension infinie. Donc il y a par exemple des difféomorphismes aussi près qu'on veut l'identité qu'on ne peut pas atteindre avec des sous-groupes à un paramètre. Mais en pratique, ces choses-là, ce sont des choses assez pathologiques. Et en pratique aussi, quand on discrétise l'ensemble des opérations, les limitations s'appliquent aussi au cadre riemannien. Donc là, il y a encore un certain nombre de résultats qui sont ouverts au niveau mathématique, mais dont on aurait besoin pour pouvoir avancer. Par contre, ce qu'on gagne, c'est qu'on a une structure qui est globalement invariante par composition et inversion. On a des calculs de géodésie qui sont très simples, et on peut se demander est-ce que ce n'est pas la linéarisation la plus simple du groupe des difféomorphismes qui prend en compte la composition, la non-linéarité de la composition. Et pour montrer un exemple d'application pour des statistiques, donc on a vu que ces géodésiques peuvent être utilisés pour le recalage. Ici, on les utilise pour paramétrer des difféomorphismes avec un faible nombre de degrés de liberté. Donc, dans le cas du cœur, on a vu les régions qui ont été définies par le American Heart Association. On peut dire que pour chaque région, il y a une transformation affine. Donc affine en 3D, c'est 12 paramètres. Et on a 17 régions, donc on a 204 paramètres pour notre transformation. Donc chaque transformation affine va générer un champ de vecteurs qui, est qui correspond à la transformation affine, infinitésimalement, qu'on va fusionner, et en prenant l'exponentielle, on va avoir un difféomorphisme. Donc maintenant, ce difféomorphisme, on va chercher à optimiser son action sur les images, trouver les paramètres qui optimisent et qui permettent de suivre le mouvement ici sur une séquence cardiaque. Donc ça, ça veut dire qu'on a une trajectoire maintenant de déformation dans un espace à 204 paramètres au lieu de quelques millions. Et pour l'analyse statistique, maintenant qu'on a 204 paramètres, on peut essayer de continuer l'analyse non plus au niveau du sujet, mais au niveau du groupe, pour essayer de dissocier qu'est-ce qui est temporel et qu'est-ce qui est spatial. Et on s'aperçoit qu'avec 8 modes temporels et 3 modes spatiaux, soit 24 paramètres par sujet, on peut approcher de manière raisonnable les résultats qu'on a obtenus. Et les modes, on arrive à en avoir, en tout cas pour les premiers, une interprétation clinique. Et on peut montrer, par exemple, qu'il y a une différence entre les déformations des tétralogies de Fallot par rapport à des contrôles qui est assez nette. Donc voilà, je voudrais finir cet exposé avec un parallèle avec un peu l'histoire de la physique, où en fait, on a d'abord cherché la structure globale de l'espace, de l'univers, en cherchant une structure homogène et isotrope à très grande échelle. Donc c'est les travaux d'Einstein, c'était plat, puis c'est devenu courbe, suivant la constante qu'on choisissait pour le... On pouvait avoir des différents modèles, donc d'autres proposés par Weyl et par Cartan. Et puis plus récemment, une fois qu'on a la structure globale, on peut commencer à rechercher quelle est la structure locale et essayer de retrouver quels sont les filaments dans l'univers, comment la matière s'organise. Ben pour les formes anatomiques, on se pose à peu près la même question. Quel est le bon cadre géométrique pour pouvoir traiter ces objets? Faut-il une structure affine? Faut-il une structure riemannienne? On a des structures de fibrés qui sont encore plus compliquées. Et puis, une fois qu'on a la structure, on peut commencer à apprendre localement la topologie et la métrique, avec en toile de fond le fait qu'on est toujours en très très grande dimension avec très très peu de données. Et donc là, il y a un problème statistique qui a été très bien illustré par Bertrand Thirion et qui nécessite un a priori géométrique extrêmement important. Là, il y a vraiment un rôle à jouer, un rôle de la géométrie à jouer pour pouvoir faire le lien entre différentes parties de l'espace où on a très très peu d'échantillons. Donc pour conclure, j'espère de vous avoir convaincu que statistique et géométrie sont les bases algorithmiques de l'anatomie du XXIe siècle.
Merci beaucoup.